France Inter.
Aujourd'hui, glacier, l'état d'urgence, raconté par
Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et directeur de l'association Marge Sauvage.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a des bons et des mauvais fantômes, des fantômes qui font peur, peuplent nos vies et nos nuits de terreur, nous racontent des histoires tristes. D'autres fantômes qui nous accompagnent, nous inspirent, veillent sur nous, éclairent nos chemins. Disparus avec le réchauffement de la planète lors de la fin de la dernière glaciation il y a 10 000 ans, les glaciers du Chablais sont de gentils vieux fantômes plus grand monde ne voit et n'écoute. Pourtant, ils sont partout, ils ont façonné les paysages, abandonnant par malice quelques traces de leur passage ont permis de développer des conditions de vie, relief, eau, sol si agréables, des sommets chablaisiens à la cuvette du Léman, creusés par le grand glacier du Rhône. L'étude des glaciers, en particulier dans les Alpes, où leur vitesse de disparition depuis les années 2000 est la plus rapide sur Terre, s'apparente chaque jour davantage au triste accompagnement du mourant, à faire naître des fantômes dans les paysages. L'humanité ne sait pas ce qu'elle doit à ces écosystèmes clés de voûte qui influencent le climat, le cycle de l'eau douce, le niveau et le fond fonctionnement des océans, l'habitabilité et la prospérité du monde à l'anthropocène. Sinon, elle ne les ferait pas fondre si vite, générant des conséquences inédites en cascade partout sur Terre. À chacun ses fantômes et le choix de nourrir les mauvais ou les bons, chérir, écouter, agir pour les glaciers encore présents sur Terre, encore largement sauvables, en atténuant au maximum le dérèglement climatique d'origine anthropique et en les protégeant dans les territoires où, dans la loi des appétits miniers sans limite, constitue une belle manière d'être au monde en 2025, année internationale de la préservation des glaciers, et aux territoires où les glaciers ne sont plus là, d'écouter ces lointains compagnons quand ils nous racontent leur histoire et nous engagent à prendre soin des écosystèmes féconds et fragiles émergés de leur disparition. Bonjour Jean-Baptiste Bosson.
Bonjour.
C'est vous qui êtes l'auteur de ce texte sur ces glaciers fantômes du Chablais, donc ce territoire. On peut le resituer d'ailleurs géographiquement ?
Oui, c'est le nord de la Haute-Savoie, c'est à la frontière suisse, les rives du Léman et les montagnes. Il y a Avoria par exemple comme station qui est assez connue.
Ouais. Et donc ces glaciers ont complètement disparu, hein. C'est une vieille histoire.
Voilà, ils ont disparu dans le Chablais qui culmine à 2400 mètres à la fin de la dernière glaciation, donc il y a 10-11 000 ans. Donc depuis, les glaciers ne sont plus que fantômes, mais ils ont façonné tout.
Et... C'est ça, oui. Ils ont joué un rôle majeur en fait dans ces paysages aujourd'hui.
Les glaciers jouent un rôle majeur déjà sur Terre aujourd'hui et dans le passé de par leur fonctionnement, mais dans les territoires de montagne et des régions froides, les glaciers ont façonné souvent une immense partie des paysages. Les grandes formes du paysage dépendent de l'érosion des glaciers, de là où les glaciers ont déposé des sédiments, et aujourd'hui on a de l'eau là où on a des replats glaciaires historiques versus où on a des versants plus raides avec moins d'eau. Par exemple, les eaux des Vians, le patrimoine est hydraulique, enfin l'eau minérale vient du fait que l'eau elle traverse des moraines, donc des sédiments abandonnés par les glaciers qui enrichissent l'eau. Donc même voilà, sur notre eau minérale ou l'eau du robinet, les glaciers ont une influence qui est colossale.
Jean-Baptiste Bosson, on peut parler d'un état d'urgence aujourd'hui sur la question des glaciers dans le monde entier ?
Un état d'urgence absolu, et d'ailleurs l'ONU le reconnaît en ayant déclaré l'année 2025 comme l'année internationale de la préservation des glaciers. Mmh. Donc tous les signaux d'alarme sont tirés au rouge. Évidemment, les glaciers dépendent du climat global dans un contexte où tout se réchauffe globalement. L'ensemble des glaciers de la planète vont très très mal. On a des collègues qui ont publié une étude en Nature il y a 2 mois qui était vraiment l'immense étude de synthèse de l'évolution de tous les glaciers de la planète depuis les années 2000 et qui montre que tous les glaciers, quasiment tous, vont mal. Sur les 300 000 à peu près glaciers qu'il y a sur Terre, quasiment tous perdent en taille, mais c'est logique dans un monde où tout se réchauffe. Et donc la sonnette d'alarme, elle est vraiment tirée en disant l'humanité, on est une croisée des chemins par rapport au destin des glaciers et par rapport au destin du climat global, au destin des océans, du niveau des océans, de leur fonctionnement, de l'accès à l'eau douce dans beaucoup de territoires. Soit on ne met pas de coup de frein sur les émissions globales de gaz à effet de serre et on va perdre les glaciers de manière irréversible, et les conséquences, elles sont inconnues pour nous. On n'a jamais vécu dans une planète sans glaciers. Nous, depuis 300 000 2000 ans, on est là. Ou alors, on arrive à mettre un immense coup de frein qui était proche des engagements de l'accord de Paris, le 1,5, le 2 degrés. On sait qu'ils sont chaque jour un peu moins atteignables. Il faut absolument se battre. Parce que si on va vers le respect de ces engagements, on peut sauver une immense partie des glaciers sur Terre.
Vous dites que les conséquences sont inconnues pour nous. Pas tellement quand même, parce que les scientifiques imaginent, et c'est votre cas d'ailleurs, ce que pourrait être un monde sans glaciers. On le verra d'ailleurs avec vous au cours de l'émission. L'UNESCO donc, et l'Organisation Météorologique Mondiale ont lancé officiellement donc, le 21 janvier l'année internationale de la préservation des glaciers.
Dans un monde qui subit les premiers impacts du changement climatique, l'une des transformations les plus significatives se produit dans la cryosphère. Les glaciers, qui étaient autrefois des symboles emblématiques de l'accumulation éternelle de la neige, s'évanouissent aujourd'hui à une vitesse incroyable. L'année internationale est donc une opportunité unique pour préserver ces ressources inestimables et encourager les efforts collaboratifs pour garantir l'équilibre délicat de la cryosphère.
Avec la traduction de Jérôme Boulet, Jean-Baptiste Bosson, une année internationale, ça doit servir à quoi normalement ?
Ça sert malheureusement trop
souvent... Au-delà des belles voix et des belles annonces dans...
Ça sert trop souvent à tirer les sonnettes d'alarme, mais c'est une énième manière, les scientifiques tirent les sonnettes d'alarme dans les rapports du GIEC, dans des publis scientifiques, dans des tribunes, de plein de manières. Là, c'est une reconnaissance quand même par l'Assemblée Générale de l'ONU. Une année internationale, c'est un vote de l'Assemblée Générale de l'ONU, donc c'est le plus haut niveau, on va dire, des politiques internationales, de la gouvernance internationale, qui tire la sonnette d'alarme pour montrer le lien total que l'humanité a avec la cryosphère, donc toutes les terres gelées sur Terre, ou les terres où on a des glaciers, et à quel point on ne sait pas vivre sans, et leur rôle qui est, nous, ce qu'on appelle des écosystèmes clés de voûte, ils n'ont pas l'air très importants, ils sont loin de nous, à Paris, en France, ils sont dans les Alpes, ou un petit peu encore dans les Pyrénées, mais ils sont plutôt loin des territoires, et pourtant, la face de la France, la face de la planète Terre, elle est complètement d'une certaine manière avec des glaciers et sans glaciers.
Mais au-delà de la reconnaissance, parce que certes c'est formidable, une reconnaissance pour un sujet aussi majeur, mais il faut aller au-delà de cela et prendre des mesures. Est-ce que cette année pourrait être l'année des mesures enfin pour les glaciers ?
Alors on fait tout pour, en tout cas nous très modestement, donc nous on a développé un projet qui s'appelle Ice and Life, qui vraiment bouge les lignes au niveau national et international depuis des années, qui est porté par un collectif, et donc notamment on avait publié dans Nature en disant qu'il y a des solutions, évidemment.
On va y revenir, oui.
Travailler sur le climat, et puis mettre des mesures dans les territoires. Et juste au niveau international, cette année des glaciers a l'ambition, en tout cas, de faire la première conférence internationale sur la préservation des glaciers. Donc pour la première fois, les États vont se réunir sur cette thématique, un petit peu dans la foulée de ce qu'avait été fait à Paris il y a 2 ans, il y avait le One Planet Polar Summit, mais là, c'est porté par l'UNESCO et par l'ONU, donc ce sera beaucoup plus global, et c'est au Tadjikistan dans un mois maintenant, à Dushanbé. Et puis, il y a la création d'un fonds international dédié à la thématique. Et on espère que tout ça va catalyser des politiques publiques locales, nationales, internationales, dans un contexte où, pour l'instant, les glaciers dans le monde sont très souvent, ou quasiment tout le temps, un impensé politique total. Dans les lois, dans les politiques publiques, dans les politiques de protection de la nature. Un autre exemple de ça, c'est il y a tous les 4 ans le Congrès mondial de la nature, qui est la grande messe internationale sur la protection de la nature, qui est organisée par l'Union internationale de la conservation de la nature.
On était à Marseille pour le dernier.
Exactement, et le prochain, il y avait Hawaï, et après maintenant il y a Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, là on va porter nous, pour la première fois, quand on veut avancer sur une thématique qu'on pense pas assez avancer sur la protection de la nature, on porte des motions, des projets, et on a écrit là récemment la première motion qui demande la protection des glaciers et des écosystèmes post-glaciaires qui leur succèdent, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu le mot protection des glaciers dans aucun congrès mondial de la nature.
Sauf que, est-ce que ces grands rendez-vous internationaux, comme le sont d'ailleurs les COP également, pour le climat, est-ce que ça fait vraiment bouger les lignes ? Parce qu'on en ressort souvent assez frustré, finalement.
Oui et non, voilà, je pense qu'on peut décider de complètement déserter en disant, en plus ces lieux sont infestés par les lobbies, je pense que qui font tout pour ralentir ou mettre des cailloux dans les engrenages pour pas qu'il y ait de... Donc on peut choisir de pas y aller, ça se respecte complètement, et d'agir autrement. Où on peut essayer d'y bouger les lignes et de participer au combat. Je pense que, typiquement, sur la question des glaciers en France, on a montré que, sur ce thème où personne parlait, qui n'était pas une politique publique, là où je pense qu'il y avait peu d'échanges entre le monde de la glaciologie, de l'écologie, avec les porteurs des politiques publiques sur cette thématique-là, le fait de créer du lien, notamment donc, via le projet Ice and Life, on a fait bouger toutes les lignes en France sur cette thématique. Donc, je pense qu'il y a discuter, ça fait avancer les choses. Et après, par contre, si les États, les parties prenantes ne respectent pas leurs engagements, peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de la 8e conférence, ça ne sert à rien d'aller à la 9e.
Bon, en tout cas, on verra. Les glaciers, en attendant, continuent de fondre. Et ça, c'est évidemment le problème et l'urgence à laquelle il faut faire face. Quels sont les lobbies, d'ailleurs? Vous évoquiez les lobbies. Est-ce qu'il y en a du côté des glaciers?
On va dire sur ceux avec qui on ne partage pas tout à fait la même vision. Il y a certains domaines skiables, ou lobby du ski dans les Alpes, où on ne partage pas tous, hein, parce que je pense qu'il y a des domaines skiables qui sont exemplaires et qui essayent vraiment d'avancer dans le bon sens. Et puis d'autres qui ont une autre vision du rapport aux glaciers. Par exemple, juste en Autriche, il y a des gros projets aujourd'hui de destruction, d'installation de domaines skiables sur glaciers, autour des glaciers, avec des pelleteuses, hein, et plein de choses, voilà. Non, les principaux lobbies aujourd'hui, ou les principales menaces, elles viennent des complexes miniers, en fait, de l'industrie minière, de l'extraction des ressources minérales. Regardez, aujourd'hui, c'est tout en haut du gouvernement américain, de l'administration Trump. Ces visites récentes forcées au Groenland, sont pas, c'est pas pour aller faire des câlins à la calotte glaciaire.
Oui, ça,
c'est
on a compris. S'intéresser,
c'est aux ressources minérales sous-glaciaires, ou on va dire autour des glaciers. Mais aujourd'hui, il y avait un article dans Science, il y a un an et demi, un cri d'alarme de collègues nord-américains qui disaient les compagnies minières en Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis, mais comme finalement dans les Andes, en Amérique du Sud ou comme en Asie centrale, sont en train de racheter ces secteurs désenglaciés parce que c'est des secteurs d'immense intérêt minier. Parce que d'un coup, on avait des zones qui étaient inaccessibles.
Et qu'ils le deviennent.
Qu'ils le deviennent.
Avec le réchauffement climatique. 300 000 glaciers, vous disiez, à peu près, dans le monde, Jean-Baptiste Bosson, c'est ça?
Oui, en fait, il y a des inventaires globaux. Le dernier était 270 000, mais paradoxalement, à mesure que les glaciers diminuent en taille, souvent, ils se disloquent. Oui. En fait, si vous voulez, la mer de glace, c'est un grand ensemble, il y a 200 ans, c'est un immense fleuve qui catalyse plusieurs cours d'eau glaciaire, on pourrait dire ça comme ça, mais à mesure qu'il s'amincit et qu'il perd en longueur, les petits canaux secondaires se disloquent les uns des autres. Donc moi, j'aime pas trop parler du chiffre des glaciers, ça veut pas dire grand-chose en glaciologie, on parle plutôt de surface ou de volume.
Et entre les Alpes et les Pyrénées, par exemple, est-ce qu'on peut avoir juste un petit ordre d'idée?
Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 glaciers dans les Alpes françaises, par exemple, à peu près une dizaine dans les Pyrénées, et en surface, on a à peu près 200 km² dans les Alpes françaises, contre moins de 1 km² dans les Pyrénées. C'est la fin de l'histoire dans les Pyrénées. Je fais un clin d'œil à mon collègue Pierre René, qui est glaciologue dans les Pyrénées, qui documente vraiment l'extinction des glaciers pyrénéens.
Un kilomètre carré.
Moins d'un kilomètre. Quand on colle tous les lambeaux de glaciers qui restent dans les Pyrénées, il y a moins d'un kilomètre carré de glaciers aujourd'hui.
Et ça vous inspire quoi, ça?
C'est la mort de géants, hein. C'est la mort de géants que l'humanité a détruit. Enfin, je pense que c'est important de le dire, que sans dérèglement climatique anthropique, parce que sans l'homme, il n'y a pas de dérèglement climatique contemporain, c'est les hommes qui détruisent les glaciers aujourd'hui, c'est comme j'ai écrit dans le texte. Hein. Et ça, je pense que c'est très important de le dire, de le rappeler. Et donc, on assiste les mourants, on est sur le lit des derniers souffles à côté de grands mourants qui ont beaucoup de choses à nous raconter et à qui on doit énormément ce qu'on essaie de partager. Et je pense que comme nos vies seront jonchées de deuil, nos vies personnelles, humaines, soit les deuils nous renforcent, soit on en tire quelque chose, soit on comprend ce qu'on est en train de perdre, ou soit on en tire du positif, on écoute. Soit on avance comme des bulldozers. Et je pense que les glaciers ont beaucoup à nous raconter. Donc, documenter la mort des glaciers, moi j'ai fait ma thèse là-dessus dans les Alpes, sur les petits glaciers, c'est écouter ça et puis travailler sur l'après aussi.
Jean-Baptiste Bosson, vous êtes notre invité. On va voir quelles traces d'ailleurs les glaciers pourraient laisser, évidemment, s'ils fondent en grande quantité. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Des travaux considérables destinés à capter les eaux de fonte des glaciers sont entrepris près de Chamonix afin d'alimenter une centrale de 200 millions de kWh qui pourra ainsi fonctionner pendant la période de sécheresse. Des galeries sont creusées. Des luges contenant 300 kg de glace évacuent les déblais. L'ingénieur, au moyen d'appareils de grande précision, détecte les poches d'eau qui pourraient survenir au cours du forage.
Une archive de l'année 1944 dans les actualités françaises. Jean-Baptiste Bosson, vous qui êtes glaciologue et géomorphologue. C'est quoi d'ailleurs cette discipline exactement?
C'est la science qui étudie l'évolution du relief terrestre. Donc géo, c'est la Terre, et morphologie, c'est la forme. Et donc l'évolution des glaciers, mais aussi par exemple du littoral, des grands processus d'érosion, voilà.
Avec votre équipe du projet Ice and Life, vous avez publié en 2023 dans Nature les résultats d'une étude qui a donc évalué les surfaces concernées par la disparition des glaciers. C'est une façon d'imaginer la vie après les glaciers ?
Bah alors déjà, elle est déjà en cours, hein, ce basculement. On documente vraiment un basculement écosystémique colossal, un des plus puissants, des plus rapides de la planète. Les glaciers alpins, on est en train de finaliser là, avec l'équipe d'Ice & Life l'analyse sur les glaciers. À l'échelle des Alpes, les glaciers ont déjà perdu 60% de leur surface. En France, c'est presque 70% des surfaces qui sont depuis que l'homme dérègle le climat, donc depuis la période industrielle. Donc finalement, la naissance d'écosystèmes qu'on a appelés post-glaciaires, donc qui naissent du retrait glaciaire depuis 150 ans, elle est déjà largement en cours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, de documenter ça, d'aller sur le terrain, de montrer la naissance d'écosystèmes primaires à très très haute valeur écologique après les glaciers. Et là, on modélisait juste pour la première fois au niveau global. Jusqu'à maintenant, les grandes publies en glaciologie, c'était, on considérait beaucoup les glaciers à juste titre comme un immense stock d'eau. Et en gros, on posait la question, quelle sera l'eau qui va rester demain dans les montagnes ? Comment ça va impacter les débits dans les grands fleuves du monde ? Et surtout, comment ça va impacter le niveau marin ? À quel point ça va faire remonter le niveau marin. Et nous, on disait, ça, c'est une, comment dire, c'est comme la Lune, il y a la face ombragée et l'autre. Une autre manière de voir le problème, qui est complémentaire, enfin le problème en tout cas, ce qui se passe, c'est, en fait, les glaciers ne sont pas qu'un stock d'eau. Les glaciers sont un habitat pour une biodiversité spécifique.
Donc c'est un écosystème à part entière.
Exactement.
En fait, hein.
Et donc de raconter cette histoire d'un écosystème qui est en train de perdre son combat d'existence sur Terre, voilà, qui est en train de perdre de la place partout, et de montrer le miroir de ça, qui est la nature ayant horreur du vide. Il y a des écosystèmes post-glaciaires qui se développent, qui peuvent être...
Et ça, c'était aussi un impensé, finalement, en science ?
Ben alors, pensé par plein de petits projets. Il y a plein de géniaux collègues qui travaillaient sur, je ne sais pas, la végétation qui arrive après les glaciers, un petit peu sur les lacs, mais... En tout cas, on a essayé, nous, de dézoomer, de montrer que c'est un grand puzzle. Le grand puzzle, il a deux grandes pièces principales. Une qui perd de la taille d'un année, que sont les glaciers. Et une autre qui a une mosaïque de petits puzzles, que sont les écosystèmes post-glaciaires. Et on a essayé vraiment d'avoir la vision la plus systémique possible, en disant qu'il faut protéger l'ensemble du système, à la fois la pièce du puzzle qu'est les glaciers. Oui. Et là, la réponse, elle est essentiellement climatique. Et par contre, regardez, en miroir de ça, on a des forêts primaires, on a des lacs, on a des néozones humides, on a des rivières sauvages, on a des zones minérales. On
qui naissent
du retrait glaciaire.
Après les glaciers, en
direct.
Fait,
hein. Là, pendant qu'on parle, si les glaciers ont perdu 2 cm à Chamonix, par exemple, bah, on a une naissance d'un sol post-glaciaire qui part à zéro. Hein, qui est le glacier, il abandonne des sédiments ou il abandonne de la roche en place, donc le sol repart à zéro. Et là, en ce moment où on parle, est en train de naître un sol devant le glacier, devant la mer de glace, par exemple.
Donc on pourrait dire, bah, c'est formidable, même si les glaciers disparaissent, derrière on a d'autres écosystèmes qui vont prendre le relais, sauf que c'est pas ça l'idée, hein, évidemment, c'est pas le message que vous transmettez.
Alors le message, il est double, il est de dire on ne sait pas vivre sans les glaciers et on doit absolument protéger les glaciers, sauver les glaciers, ça passe beaucoup par le climat. Par contre, on disait, et ça je pense qu'on a essayé de le placer sur la carte, c'est de dire mais regardez ce qui arrive après les glaciers, soit l'humanité voit ça comme des nouveaux champs d'expansion, parce que les glaciers, il y avait peu d'infrastructures à part, voilà, mais quand on perd les glaciers, ben, on a envie les mines remontent très très vite.
C'est ça, donc c'est l'artificialisation qui reprend le dessus très rapidement.
Ou par exemple des pratiques sportives où il y aurait beaucoup d'impact, on ne se rend pas compte à quel point on dérange. Et, ou alors, il y avait une autre histoire que de dire, regardez, les glaciers, c'est aussi pour ça que l'association s'appelle Marge Sauvage, les glaciers et ces zones en train d'émerger sont certaines des toutes dernières marges sauvages de la planète.
Qu'est-ce que c'est les marges sauvages ?
Les derniers écosystèmes intacts, que l'homme n'a pas profondément modifiés, dégradés, détruits. Il y a des études globales comme ça qui essayent de quantifier ces Human Footprint Index, quelle est l'empreinte humaine sur Terre, et qui montrent qu'à peu près 80% de la planète a été profondément modifiée, dégradée. Et là, on est dans les 20 derniers pourcents. Dans les derniers pourcents, et les écosystèmes, on a emmené, nous, par exemple, un partenaire du projet la semaine dernière sur une des seules forêts primaires d'Europe, en fait, là où on perd les glaciers. Donc, en aucun cas, c'est une bonne nouvelle de perdre les glaciers. Il faut sauver les glaciers. Mais on montre que dans ces zones, à défaut de glaciers, de laisser la nature évoluer librement, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons planter les graines, décider s'il faut enlever les lacs, garder les lacs, etc., qu'il faut, si on laisse la nature faire...
C'est ça, mais c'est à cette condition-là, évidemment.
Voilà. Voilà, exactement. Si on laisse la nature faire, face aux grands défis sans précédent qu'on a au XXIe siècle à gérer, que sont le climat, ben, les glaciers sont clés pour le climat, parce qu'ils sont blancs, ils renvoient du rayonnement solaire, ils produisent de l'eau fraîche, de l'air. À défaut de glaciers, ces zones vont séquestrer du carbone, les sols, la végétation qui arrive en surface, si on ne coule pas du béton partout.
Mais est-ce que ce serait dans les mêmes proportions, justement, que ce que font les glaciers aujourd'hui, qui ont un rôle, évidemment, par exemple, sur la séquestration du carbone ? Est-ce qu'on a d'autres puits qui peuvent prendre le relais de la même façon ? Ou est-ce que, de toute façon, on va perdre quand même beaucoup ?
Alors, les glaciers ne séquestrent pas du carbone, ils jouent un rôle sur l'albédo, sur la couleur de la planète.
Sur le fait de réfléchir.
Voilà, exactement. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot à défaut de. C'est on essaie de. On va dire, on est dans une équation, on peut perdre sur les deux côtés. Si on perd les glaciers, on va perdre beaucoup. Si on perd en plus la nature qui arrive après les glaciers, on perd sur toute la ligne. Et nous, on dit, déjà, il faut essayer de sauver les glaciers pour pas perdre trop de ce côté. Mais en parallèle, si on préserve la nature sauvage qui naît du retrait glaciaire, donc ces nouveaux sols, ces nouvelles zones humides, ces nouvelles forêts, ces nouveaux lacs, ces nouveaux fjords dans les régions arctiques, donc des écosystèmes marins aussi, on a sur les grandes crises actuelles le climat, la crise de l'accès à l'eau douce. Donc les lacs, les zones humides sont nos réserves d'eau douce du futur, et la crise du vivant, ces lieux sont des sanctuaires de la nature sauvage. Si on les préserve, on a des solutions dans les territoires.
Jean-Baptiste Bosson, vous dites l'âge des futurs ne sera pas l'âge des glaciers, malheureusement pour nous, mais l'âge des lacs. Donc ça, c'est une façon, vous, en tant que géomorphologue, précisément, de représenter le paysage après les glaciers.
En fait, on est en train de perdre les glaciers plus ou moins vite, et ça va dépendre de la réaction globale climatique. Et malheureusement, on passe d'une période globale sur Terre qu'on appelait le petit âge glaciaire, qui était une période fraîche, essentiellement pour des raisons naturelles, entre 1350 et 1850. Et on va dire que l'homme, avec la révolution industrielle, a changé tout ça. Et on est sorti du petit âge glaciaire, et on est peut-être même en train de sortir, et d'où les enjeux du seuil de l'accord de Paris. Au-delà de 2 degrés, par exemple, l'entièreté de la calotte du Groenland peut complètement fondre. Donc au-delà, l'homme peut faire complètement sortir la Terre presque de cette période avec des glaciers. Alors ça va mettre du temps à fondre. Et par contre, un des écosystèmes gagnants de tout ça, parce que les glaciers sont d'extraordinaires façonneurs des paysages, créent de l'érosion, créent des zones notamment de surcreusement glaciaire. Et on montrait dans Nature, on a publié ça, qu'il y a plus que 100 000 lacs qui vont apparaître sur Terre dans les prochaines, d'ici à 2100 avec le retrait glaciaire. Parce que, donc c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que ces lacs demain seront très importants pour
donc
avoir de l'eau.
Donc on ne perd pas totalement l'eau douce. C'est ce que vous voulez dire aussi?
Oui,
ou
mais
pas
en fait, à peu près 97% de l'eau, nous, des modélisations qu'on a, 97% à peu près de l'eau des glaciers finit dans les océans ou dans l'atmosphère. Par contre, on montrait que ces lacs pouvaient stocker, en suivant les régions, entre 0,1 et 5% de l'eau.
Oui. Mais donc, moi, j'habite beaucoup à côté, moins quand même que les quantités qu'offre le glacier.
Oui. Et moi, j'habite à côté du lac d'Annecy. Le lac d'Annecy, il est né du retrait glaciaire du glacier, notamment de l'Arve, il y a 17 000 ans. Ce lac, aujourd'hui, c'est un réservoir d'eau douce extraordinaire pour nous, les hommes, pour la biodiversité, lacustre, etc. Et dans les Alpes, sont en train de naître une myriade de petits lacs. Parce qu'il y a des petits glaciers, globalement petits. Par contre, sur Terre, en Patagonie, en Alaska, sont en train de naître des lacs d'Annecy en temps réel. Donc là, on a un immense aussi besoin de les préserver. Oui, ça ne limite pas le niveau global, parce que ça stocke peu d'eau, le niveau marin global. Par contre, dans les territoires, ces lacs demain sont clés pour l'accès à l'eau douce.
Jean-Baptiste Bosson, à chaque gramme de CO2 que nous émettons, on a de la glace qui fond aussi. C'est un rapport direct.
Oui, il y avait une étude, c'était Ben Marzayon, qui est un glaciologue, qui avait publié ça dans Nature il y a quelque chose comme 4 ans. Ou 5 ans, pour chaque gramme émis, on fait fondre 16 grammes de glace sur Terre. Donc si vous faites je crois qu'un Paris-New York, c'est 2 tonnes à peu près, quelque chose comme ça. Donc vous faites fondre, si vous faites un Paris-New York en avion, 32 tonnes de glace sur Terre. Je pense qu'il faudrait mettre ça dans notre garage ou dans notre salon.
Un individu à lui tout seul?
Voilà, 2 tonnes émises par un individu. Ouais. En France, on dit qu'il faudrait, pour qu'on soit durable, émettre 2 tonnes.
2 tonnes par an.
2 tonnes par an.
On est à quoi? 9, 9, 11
en moyenne, ouais. Et donc on fait fondre ça fois 16. Colossal.
Ces glaciers, ils donnent de l'eau douce à une part très importante de la population mondiale aussi, Jean-Baptiste Bosson. On l'estime à combien d'ailleurs?
J'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est plusieurs centaines de millions d'humains sur Terre. Mais l'humanité totale dépend des glaciers, soit par accès d'eau douce directe. Par exemple, un exemple, c'est le Pakistan. Regardez le Pakistan, prenez une carte tout à l'heure, allez voir le Pakistan vu de l'espace. Le Pakistan, c'est une zone désertique entre le nord de l'Inde, qui est désertique, et l'Afghanistan, qui est aussi semi-désertique. Il y a une bande centrale verte au milieu, c'est l'Indus. L'Indus, c'est notamment l'eau des glaciers de l'Himalaya du nord du Pakistan. Ça, c'est 200 millions d'habitants qui vivent en grande partie de l'année parce que les glaciers régulent le fait qu'il y ait trop d'eau en hiver et au printemps et en automne, et à l'inverse, donnent de l'eau en été. Donc les glaciers sont clés pour ça, mais les glaciers sont le principal stock d'eau douce aujourd'hui sur Terre. 70% de l'eau douce est stockée dans les glaciers, notamment dans les deux méga-glaciers que sont les calottes du Groenland et de l'Antarctique. Si tous les glaciers fondent sur Terre, c'est 66 mètres marins en plus de tous les océans. C'est-à-dire que vous prenez.
On dit que l'Himalaya, c'est quasiment le troisième pôle, d'ailleurs. C'est souvent l'image qu'on donne, mais...
Exactement. Mais en termes de volume d'eau, c'est beaucoup moins gros. En tout cas, il y a des milliards d'êtres humains qui dépendent directement des glaciers.
Jean-Baptiste Bosson, vous êtes notre invité. Et vous répondez aux questions dans un instant des auditeurs et auditrices.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
On parle souvent d'expériences qui se pratiqueraient en Suisse ou en Autriche, de bâcher les glaciers pour préserver les accès hivernaux, pour garder un passage suffisant et non exposé à des risques de crevasses. Donc, c'est des solutions pansement, c'est des solutions très spécifiques pour un objet très particulier. C'est en aucun cas une stratégie de protection des glaciers, parce que c'est voué à l'échec. C'est de telles surfaces à couvrir, et puis un glacier, c'est beau quand c'est un glacier, et c'est moche quand c'est recouvert d'une bâche. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus.
Voilà, il s'appelle Hervé Villard, mais il ne chante pas, il s'occupe plutôt de transition écologique à Chamonix. Extrait d'un film À l'ombre des glaciers de Clément Vallat, Mathieu Crétet et Guillaume Carcanade, étudiant d'ailleurs d'AgroParisTech, film auquel vous avez participé, Jean-Baptiste Bosson, vous qui êtes glaciologue et géomorphologue. Bâcher les glaciers, est-ce une bonne idée? Puisqu'on va parler maintenant de comment on fait pour les protéger, ces glaciers.
C'est une très mauvaise solution. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une solution. C'est du palliatif. En fait, on ne traite pas la cause du problème. C'est comme en médecine, hein. Si vous souffrez d'un cancer, on va vous dire qu'on a trouvé un super moyen d'enlever tous les effets qui vous montrent que vous êtes malade, mais on ne va pas vous empêcher d'être malade. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous aurez l'impression que vous n'êtes pas malade, mais par contre, tout est détruit à l'intérieur.
Soigne que le symptôme, quoi.
On soigne que le symptôme. On ne soigne même pas vraiment le symptôme. Enfin, oui, on peut limiter la fonte hyper localement pour des enjeux écologiques. Ça relargue des micropolluants partout, qui finissent dans nos intestins, dans les rivières. On parlait de polluants éternels tout à l'heure.
Du plastique, certainement.
Exactement. Alors maintenant, ils sont contents, ils ont trouvé quelque chose, soi-disant, de durable comme matériau. Mais c'est de l'inverse de solution. Les solutions, c'est quelque chose de systémique qui met fin au problème. C'est pas quelque chose qui cache le souci, en fait.
Est-ce qu'un glacier, ça se protège aujourd'hui? À l'heure où nous parlons, dans la temporalité humaine, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut arrêter, par exemple, la fonte des glaciers ou pas? Ou est-ce que va se faire à une échelle beaucoup plus importante?
C'est très important de dire que si on atténue le réchauffement climatique au maximum, on peut sauver une immense partie des glaces sur Terre.
Donc l'accord de Paris, 2 degrés max.
Voilà, exactement, de rester le plus possible proche des engagements internationaux. Donc c'est mal parti, puis on a malheureusement un contexte international qui ne va pas du tout dans le bon sens. Mais sinon, on enclenche des choses irréversibles qui sont un chaos, hein, l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc je pense qu'on est responsable de ça. Et deuxièmement, ce qu'on disait qui est complémentaire, qui ne remplace pas cette action climatique qui est centrale, protéger dans les territoires, les glaciers, c'est-à-dire les mettre dans des zones protégées comme des parcs nationaux, des réserves ou dans les lois. Par exemple, en France, il y avait zéro considération. C'est Philippe Yolka, un juriste, qui avait montré ça. À part pour les accompagnateurs en montagne, il n'y avait pas le mot glacier dans les lois en France. Et donc, les protéger, ça empêche d'avoir des pelleteuses, des compagnies minières qui utilisent des explosifs sur les glaciers. Ça n'empêche pas de fondre.
Oui, enfin, sauf que si ça fonctionne comme les aires marines protégées, on peut se poser des questions, parce qu'on voit la politique française autour des aires marines protégées. Vous avez demandé à Emmanuel Macron, justement, que les glaciers et leurs écosystèmes soient reconnus en zone de protection. Donc, c'est la catégorie d'air protégée la plus haute. Il y a des questions à se poser. D'abord, est-ce qu'il a dit oui ou pas?
Oui, alors voilà, on a vraiment mis des solutions sur la table et qui ont été écoutées par l'État français dans la stratégie nationale biodiversité. Donc, je fais un clin d'œil aux collègues du Conseil national de la protection de la nature, parce qu'on avait porté ça collectivement. Et donc, pour la première fois en France, et à ma connaissance, dans le monde, c'est assez inédit, un pays s'est engagé à placer l'ensemble de ses écosystèmes glaciaires et post-glaciaires en protection forte. On a fait un festival qui s'appelle Agir pour les glaciers il y a un mois à Bourg-Saint-Maurice, où il y avait la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui est venue rappeler l'engagement national.
Donc c'est un accord de principe?
Non, c'est un engagement d'une politique publique. Maintenant, la politique publique, elle est en train d'être déclinée. On est au début de sa déclinaison, donc on espère qu'il va y avoir des moyens et une vraie
ambition. C'est ça, parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une zone de protection aujourd'hui telle que le gouvernement aussi l'entend?
Ça veut dire aller dans les territoires.
Il y a des contraintes ou pas?
Oui, bien sûr. Et nous, par exemple, on est en train de faire ça à Bourg-Saint-Maurice, qui est une des communes vraiment pionnières sur la thématique, de former les gens, de concerter, d'écouter les gens aussi, donc les habitants de ces communes de montagne, les enfants, les habitants, les sociopros, les guides, les gardiens de refuge. Qu'est-ce qu'eux voient comme activité durable et comment on peut préserver durablement ces écosystèmes glaciaires post-glaciaires? Donc on lance par exemple, nous, une convention du territoire pour les glaciers, donc quelque chose d'assez innovant aussi sur le côté participatif, pour que ce soit les gens, et pas nous, les scientifiques, ou nous qui habitons loin des fois de ces zones, mais les locaux qui comprennent que s'ils prennent soin de la haute montagne sauvage, donc glaciers et écosystèmes post-glaciaires, de Néanmoins, ils ont des territoires qui sont beaucoup plus habitables, qui vont demeurer habitables, tandis que si ces zones sont dégradées très rapidement, malheureusement, demain, les territoires de montagne, comme elles, seront moins habitables.
Sauf que, bon, ça c'est une partie, évidemment, mais il y a aussi la responsabilité de l'État. Vous parliez du réchauffement climatique. La première des choses à faire, c'est de maintenir les températures. Or, on voit bien que même la France, aujourd'hui, est sur la mauvaise pente. On a eu encore les résultats, selon le baromètre des émissions de CO2 publié le mois dernier. La France ne baisse pas suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre pour être dans le chemin de la neutralité carbone.
C'est clair. Il faut de la cohérence et la France va pas assez vite, pas assez fort sur la transition énergétique et écologique, enfin sur la question du carbone. Malheureusement, l'Europe non plus. Puis si on regarde ailleurs sur Terre, c'est presque encore pire. Alors, il faut pas regarder pire que soi pour toujours se trouver qu'on est un peu le moins pire. Mm-hmm. Je pense qu'il faut vraiment accélérer décisivement sur cette question de la transition énergétique, enfin en tout cas sur les émissions de carbone, qu'il faut parler sobriété, qu'il faut parler habitabilité des territoires, qu'il faut parler prospérité durable, parce qu'on a l'impression que d'être écolo et de dire qu'il faut accélérer la transition écologique, c'est anti-prospérité, c'est la seule prospérité qui demeure.
Et d'un côté, on a l'État qui parle beaucoup de réindustrialiser, et on voit bien quand même que le discours écolo, il est relégué en bas de page, hein.
Oui,
on
a les dossiers régulièrement au CNPN sur tous ces sujets. Trouver un équilibre durable homme-nature, aujourd'hui on en est loin. Malheureusement, il faut rééquilibrer, il faut redonner de la place à la nature sauvage qui va nous permettre de vivre, d'avoir de l'oxygène, de l'eau, etc. Et donc, en tout cas, sur ces écosystèmes de haute montagne, il y a une vraie capacité à agir avec impact.
Jean-Baptiste Bosson, être glaciologue, c'est aussi être politique, parce que vous êtes très politique aussi. C'est votre autre casquette, mais c'est aussi ce en quoi vous croyez pour faire avancer la cause des glaciers.
En fait, on a mis le mot politique. Moi, j'ai commencé par Sciences Po, mes études. Et en fait, on met le mot politique comme si c'était un gros mot, que c'était pas bien, que c'était... Non, parce que moi, on nous attaque beaucoup souvent là-dessus. Vous êtes militant, vous êtes politique. Non, je crois que je suis pleinement dans mon rôle de scientifique, où on produit des rapports ou des études au plus haut niveau. On a publié dans Nature l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup d'articles sur les glaciers. Et en fait, de prendre part au débat public après, et de montrer qu'il y a deux solutions sur la table. Il y en a une qui est basée sur la science, qui est basée sur la connaissance, qui tient en compte de la complexité des approches systémiques, et que celle-là, elle est bonne, versus des choses débiles qui seraient dites, enfin, désolé du terme, par Trump ou Musk, qui, sans aucune véracité, vous disent quelque chose. Je pense que c'est le rôle des scientifiques de prendre part au débat public, et en fait, de prendre part à la politique au sens très noble du terme, en tant que expert pour éclairer. Et après, par contre, moi, je m'engage pas en politique, j'ai pas un parti politique, c'est pas moi qui vote. On essaie de convaincre les élus, les habitants de prendre les meilleures décisions possibles pour vivre.
Allez, on passe aux questions. Question de François. Le glacier, dit-il, de Bionassay se voit de chez moi. Vous savez où il est exactement, Jean-Baptiste Bosson?
Bien sûr, Mont Blanc.
Son front est remonté de 1000 mètres en 50 ans. En Nouvelle-Zélande, j'ai vu aussi le Tasman glacier perdre 10 km en longueur. Les Suisses prévoient d'installer des barrages dans les vallées où de gros glaciers sont en train de disparaître. Comme ils ne laissent que de la roche polie ou des moraines stériles, je pense que c'est une idée... Alors, j'arrive pas à comprendre si ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que la question n'est pas très claire. En tout cas, qu'en pensez-vous, vous?
Alors, on essaie de se battre contre cette idée, ces projets-là. En fait, comme on a dit, les glaciers et les écosystèmes qui sont en train d'émerger du retrait glaciaire sont les derniers grands écosystèmes sauvages d'Europe. Donc si pour la transition énergétique, on est déjà, comme je vous dis, si on regarde l'Europe vue du ciel avec les Human Footprint Index, l'empreinte humaine, l'Europe a été profondément modifiée, dégradée. Il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes fonctionnels, il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes en bonne santé. Là, on s'attaque au dernier joyau de la couronne, c'est les hautes montagnes sauvages, et on va dire qu'on va faire la transition énergétique là-dessus. Les rapports du GIEC et de l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, disent absolument ça. On ne peut pas sacrifier le vivant, la biodiversité, la nature, sur l'autel de la transition énergétique. Donc il faut absolument, et donc on dit qu'il faut protéger ces zones et qu'on va trouver d'autres endroits pour mettre des barrages qui ont déjà été dégradés, s'il faut mettre des barrages.
Catherine et Patrice, émerveillés par la jonction des glaciers des Bossons et de Tacona il y a 20 ans, jusqu'à quelle altitude pouvons-nous craindre la disparition des glaces sous le Mont Blanc, demande-t-il?
Tout dépend de la réponse climatique globale aujourd'hui sur Terre. Dans les Alpes, on va vers...
Il y a différents scénarios.
Oui, vers les scénarios du pire, on va vers une extinction des glaciers alpins d'ici 60-80 ans. Donc on va voir tout ça en direct.
C'est demain.
C'est demain. Ou alors on peut sauver encore à peu près un tiers du volume actuel si on applique l'accord de Paris, qui chaque jour malheureusement est moins atteignable.
Erwan nous dit le Pérou a perdu 50% de ses glaciers en 50 ans. Vu l'accélération du dérèglement, combien de temps le Pérou aura-t-il tout perdu? Alors je ne sais pas si vous êtes...
Pareil, exactement. Ça dépend. Le message clé, c'est on peut encore sauver une immense partie des glaciers sur Terre si on applique l'accord de Paris, où on est proche, versus on peut aller vers des extinctions glaciaires dans beaucoup de régions du monde.
Alan nous dit, les JO d'hiver décidés par Macron comme un trophée présidentiel ne sont-ils pas une aberration? Combien de montagnes et glaciers vont-ils être grattés pour y installer pistes et infrastructures.
Alors, je ne pense pas qu'on va gratter trop de glaciers. En tout cas, on se battra vraiment contre ça. Et oui, alors ça peut être des JO écolo, vert, je ne sais pas comment ils se sont autoproclamés.
Ouais.
On attend. Pour l'instant, c'est plutôt tout le contraire. On ne voit pas ce qui émerge de ce point de vue-là. Non, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, moi, je suis personnellement contre ce genre d'événement. Je suis un passionné de sport, mais contre ce genre d'événement où on réunit la Terre entière sur 2 semaines.
Vous dites qu'il ne faut pas le faire, carrément ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, écoutez, l'urgence, elle est absolue. Les paramètres vitaux de la planète, des glaciers, de la biodiversité, on est en état d'urgence absolue. Donc, on peut continuer à s'amuser beaucoup, en fait. Mais après, c'est difficile. Ou après, il faut expliquer aux enfants ce qu'on fait, nous.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Bosson. Bon retour dans vos glaciers en l'occurrence. Merci d'être venu dans la Terre au Carré aujourd'hui. Et merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier avec un agenda chargé en cette année internationale des glaciers. Merci beaucoup de votre venue.
Merci.